Hello, hello, mes chers amis du gratin, ici Pauline Léniaud et vous êtes donc sur une leçon du gratin. Eh bien oui, une leçon puisque nous sommes mercredi et que qui dit mercredi dit leçon, ces fameux moments entre vous et moi où j'essaye de répondre à vos questions et puis de vous aider hein, tout simplement sur vos problématiques du moment. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Anne Durieux qui est la fondatrice de la marque Anne Durieux que je vous invite à aller découvrir. Je vous mets ça dans les notes de l'épisode et qui se pose plein de questions. Elle a la chance assez rare d'avoir une boîte qui cartonne, une marque de prêt-à-porter féminine qui a décollé. Après un premier échec entrepreneurial, elle s'est relancée dans l'aventure et cette fois ça marche et ça c'est quand même assez formidable. Bravo Anne. Elle me pose ainsi la question, comment briser le plafond de verre? Ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'elle souhaite continuer à accélérer la croissance et la pérenniser, mais surtout réussir à elle-même ne plus être le goulot d'étranglement de son entreprise. Elle sent qu'elle a du mal à réussir à faire plus, ses ateliers sont débordés, elle a une personne qu'elle a recrutée mais n'arrive pas à déléguer suffisamment. Bref, elle se sent submergée et veut pourtant faire plus parce qu'elle a énormément d'ambition pour son entreprise. Un fait intéressant dans cette leçon, vous le verrez, c'est que évidemment, comme beaucoup de personnes, Anne se retrouve à un moment critique du stade de son entreprise où elle a finalement une croissance très forte, mais pas encore suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir recruter à tire-larigot. Bref, elle se pose la question, comment diable faire pour réussir à scaler, à vraiment faire croître mon business, réussir à faire plus avec moins de temps? C'est à cette question que je vais essayer de répondre dans cette leçon. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Bonjour Anne.
Bonjour Pauline.
Bienvenue sur cette leçon du gratin, je suis ravie de t'accueillir.
Eh bien, écoute, je suis ravie d'être invitée, enfin je ne sais pas si on peut dire invitée,
si, si.
Mais en tout cas, oui, d'être conviée ou de participer à la leçon du gratin, d'autant plus que je suis une véritable groupie, je ne loupe aucun de tes, de tes leçons.
Ni alors, est-ce que tu vas auto-écouter ton épisode? C'est une grande question ça.
Je sais pas, parce que j'ai déjà fait un peu de télé dans le cadre de Cousuma. J'avais participé à cette émission de, je sais pas comment on a fait une émission de ce concours de couture. Et autant j'arrive à me voir, mais autant à m'écouter, je n'y arrive pas.
Donc, c'est pas facile, hein. Tu sais, même moi, ça m'a mis un peu de temps. Donc je comprends. Mais écoute, en tout cas, si jamais je fais du bon boulot et que cet épisode t'est utile, eh ben tu sauras que tu peux le réécouter. Donc ça fait quand même plaisir.
En tout cas, j'ai déjà tout mon cercle d'amis qui m'écoutera, ça je le sais.
Bon,
j'ai déjà eu
alors,
la parole.
Écoute Anne, du coup, est-ce que tu peux me dire bah du coup qui tu es, où tu vas, d'où tu viens et puis qu'est-ce qui t'amène sur cette leçon du gratin?
D'accord. Alors je suis Anne Durieux, j'ai 35 ans, j'habite à Hambourg en Allemagne. Mm-hmm. J'ai encore toujours ce besoin de préciser où se situe Hambourg. Mais je suis créatrice et fondatrice de ma marque éponyme qui propose des vêtements sur mesure pour toutes les femmes. Je suis vraiment partie de cette conviction dont j'ai fait mon slogan, que c'est aux vêtements de s'adapter aux femmes et non l'inverse. Si je veux être un peu prétentieuse, je dirais que j'ai pour ambition d'être aux vêtements ce que Gémio est à la joaillerie.
Ben, c'est pas du tout prétentieux, c'est au contraire très flatteur pour moi. Donc je te remercie. Ben, écoute, je te souhaite en tout cas tout le succès et je crois d'ailleurs que cette leçon va être dédiée à ce succès. Alors dis-moi justement comment je peux t'aider?
Alors, à l'heure actuelle, donc j'ai une entreprise qui connaît une croissance exponentielle, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas qui connaît une croissance certaine. Je suis arrivée là où j'ai toujours voulu être, c'est-à-dire que je suis rentable, je peux me payer, ça marche très bien, mais ça marche tellement bien que je n'arrive plus à suivre. C'est-à-dire que je suis submergée de commandes, je n'arrive pas tout le temps. Enfin, j'ai travaillé avec un atelier qui n'arrive pas à tenir forcément les délais. Donc, en fait, ma question c'est comment briser le plafond de verre, comment accélérer ma croissance, la pérenniser. Et en fait, c'est par là, c'est comment changer d'échelle. En fait, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, je me sens limitée et limitante pour mon entreprise. Ouais. Donc, et toute seule, j'y arrive pas. Je connais.
Alors, justement, j'ai des petites questions pour toi, Anne, pour pouvoir t'aider au mieux, parce que j'adore cette question. Hein, donc, déjà, je te remercie. Dis-moi, tu, aujourd'hui, l'équipe est constituée de combien de personnes? Parle-moi
de
un petit
personnes.
Peu de Anne. Donc, c'est toi et qu'est-ce que fait l'autre personne?
Elle m'assiste. Déjà, c'est tout nouveau parce qu'en fait, j'avais une entreprise il y a quelques années qui n'a pas marché, que j'ai fermée. C'était une, enfin, qui n'a pas marché, qui a marché, mais pas assez bien pour être rentable à long terme. Donc, j'ai remonté mon entreprise, enfin, cette entreprise indirecte. C'était une entreprise de, enfin, c'était une entreprise, une marque de prêt-à-porter avec des collections. Ce qui allait du 34 au 42, pas du tout de sur-mesure. Voilà. Bon, bref, il n'y avait pas forcément, j'avais pas assez travaillé mes valeurs, mon concept, ma vision, toutes ces choses-là, mon client idéal, ma plateforme de marque. Donc maintenant, j'ai fait ce travail-là et du coup, j'ai remonté donc ce concept, cette marque sous ce concept-là, il y a environ un an. Donc ça, la croissance a été très rapide. Enfin, j'avais déjà, je jouissais de cette notoriété que j'avais un petit peu, j'ai resurfé là-dessus, notamment sur les réseaux sociaux, puisque j'étais pas, enfin, j'ai quand même...
Tu avais déjà une communauté, quoi.
Et une clientèle aussi qui était ravie de me... Enfin, certaines étaient ravies, je l'espère, de me revoir. En tout cas, elles commandent, elles sont très fidèles. Et du coup, je ne sais plus où j'en suis, donc j'espère
mais
que
du coup, tu es débordée, tu n'arrives plus à suivre la demande, justement, de ces nombreuses clientes qui t'ont suivie.
Exactement. Et donc, l'équipe est constituée donc de ma personne qui fait beaucoup, beaucoup trop de choses et d'Amélie, donc qui est mon assistante et qui gère toute la logistique, la préparation des commandes,
d'accord.
qui fait les étiquettes, qui fait le contrôle qualité, qui fait un peu de service client, enfin voilà, toutes ces,
qui
me délègue là-dessus. Voilà,
très
qui
bien.
Me saute sans la tête de l'eau.
Écoute, très intéressant. Alors, en fait, c'est génial que tu sois à ce moment-là. C'est ce que je souhaite à tout entrepreneur qui se lance, effectivement, d'avoir tellement de succès sur son produit, sur sa marque, sur son concept, que finalement, bah, il se retrouve à devenir le goulot d'étranglement. Et en fait, ce que je veux dire est assez important. Là, tu es en train de le vivre, mais ce que je te souhaite, c'est que ce moment-là, en fait, tu le vives à plusieurs moments dans ta carrière. Parce qu'en fait, ce qui se passe très souvent, c'est que on touche un plafond de verre, effectivement, où on devient le goulot d'étranglement de l'entreprise, parce qu'on n'a plus assez de temps. Et ensuite, on arrive à le débloquer parce qu'on arrive à trouver une soupape. Souvent, en recrutant
d'accord.
quelqu'un, on va en parler. En trouvant des ateliers, en déléguant avec, tu vois, des prestataires. Enfin, il y a diverses manières de le faire, on va en parler. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, en fait, la vie d'une entreprise, si tu veux, fonctionne énormément par palier, et notamment notre capacité à générer de la valeur pour l'entreprise, elle fonctionne par palier, et que toi, bah, tu as touché peut-être, bah voilà, un premier goulot, un premier plafond de verre. On va faire en sorte que tu le débloques et puis ensuite tu vas avoir une belle année ou quelque temps en tout cas devant toi et ensuite hop ça va revenir. Et en fait tout ton travail d'entrepreneur c'est d'apprendre à ne plus être le goulot d'étranglement. Et je dis ça et je pèse mes mots, c'est très important parce que il faut pas du tout que tu penses une fois de plus que ça sera la seule fois, ça va se reproduire et pour accompagner la croissance de ton entreprise, pour passer de une personne à 10 personnes, à 30 personnes, à 50 personnes, à 200 personnes, en fait, tu vas devoir apprendre à chaque fois finalement de nouvelles compétences et un nouveau métier parce que ce que tu fais aujourd'hui n'est évidemment pas ce que tu feras quand vous serez 10 et ne sera encore moins ce que tu feras quand vous serez 50, 100, etc.
Ah, mais c'est ce que je me souhaite, hein.
C'est ce que je te souhaite aussi. Et du coup, c'est aussi ça qui est super sympa et intéressant, si tu veux, dans le métier, c'est que finalement, ben, on s'ennuie jamais, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une aventure au sens où t'as en permanence, bah, des nouveaux challenges qui te tombent dessus. Mais il faut, du coup, accepter quand même de les remplir, ces challenges, et de contourner la montagne, on va dire. Et du coup, c'est très bien que tu me poses cette question parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, si tu veux, qui se sentent débordées, qui sentent qu'ils ont un potentiel, mais qui ont aussi un peu peur de pas être la bonne personne, peur de pas y arriver, et qui, du coup, préfèrent, si tu veux, rester dans une situation un peu de statu quo, où on se dit, bon, bah, finalement, c'est un peu le bordel, mais qui ont peur de grandir. Tu vois, qui se sabote un peu. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois assez souvent maintenant dans mon audience. Et donc, bah, je suis contente de voir que ça n'est pas ton cas.
Oui, et surtout que je veux grandir et pas grossir. J'ai bien écouté le podcast avec Apollonia Poilan et ça, ouais. ça m'a vraiment marqué. Donc, j'ai envie vraiment de faire les choses bien, du mieux possible pour mon produit, parce que je suis une passionnée de ce que je fais, et pour en respectant mes clientes. Vraiment, j'ai envie de garder, enfin, non pas de garder la même qualité, c'est d'augmenter en termes de qualité, mais aussi de quantité, parce que j'aurais une solution, c'est de limiter. Et c'est ce que je vais peut-être mettre en place pour une prochaine capsule, c'est de limiter, de dire, voilà, je n'ouvre les commandes, enfin, qu'à X pièces, comme ça, je sais que mon atelier va pas être débordé, je vais pouvoir maintenir la cadence, mais c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est c'est vraiment grandir et parce que j'ai d'autres projets derrière. Enfin, j'ai une vraie vision. Enfin, je sais pas si une vraie vision, mais en tout cas, j'ai une vision qui m'anime à 5 ans, 10 ans et que j'ai envie d'accomplir. Donc, je peux pas me limiter, j'y arrive pas.
Écoute, tant mieux, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors, justement, tu me parlais, pour parler un petit peu concrètement de solutions. Je connais pas suffisamment ton business, sincèrement, il faudrait qu'on en parle beaucoup plus en détail, mais ce qui me paraît être deux options, en fait, les plus récurrentes, hein, c'est un... Enfin, bon, allez, mettons, il y a trois options. Un, il y a, pour que tu sois plus goulé dans l'étranglement, le fait que tu améliores ta productivité à toi. Bon, il me semble pas, d'après ce que tu dis, que ce soit le problème. Deux, que tu recrutes en interne. Bon, ça peut un peu, mais deux, que tu recrutes. Et à chaque fois, ça sera ces trois solutions, hein, tu verras. Donc, deux, tu recrutes. Ça veut dire que de l'intérieur, tu améliores un certain nombre de processus et surtout, tu fais en sorte d'avoir des personnes qui vont prendre des responsabilités que tu avais. Donc, ça veut dire que tu vas moins faire de choses, que tu vas superviser ces personnes-là, que tu vas leur donner la vision, mais que tu ne vas plus le faire toi-même. Donc, typiquement, ça peut être le marketing, ça peut être la gestion des ateliers, ça peut être, voilà, enfin, diverses, les finances, ça peut être plein de choses. Et ensuite, le troisième point, ça va être de se dire, OK, je vais passer par un prestataire externe pour m'accompagner. Donc, ça, si tu veux, c'est les trois moyens de scaler, soit améliorer sa propre productivité interne, ce qui peut passer par faire moins de choses et mieux. Donc typiquement, tu vois, tu pourrais te dire, bah en fait, il y a tout un pan d'activité que je fais, genre je passe énormément de temps sur Instagram. En fait, je vais arrêter de poster sur Instagram. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais je vais passer moins de temps à faire ça et passer plus de temps sur autre chose pour plus scaler mon business. Deux, tu recrutes. Et trois, tu délègues à un prestataire. Donc disons que si je schématise,
mais le
c'est les trois options.
Il faut encore, je suis désolée, je te coupe peut-être.
Vas-y.
Le recrutement. Je suis d'accord, c'est ce que j'aimerais vraiment, mais j'ai pas encore la possibilité, d'un point de vue financier, de le faire. Est rentable mon entreprise, je peux me payer moi, je peux payer, enfin faire un peu, mettre peut-être un peu d'argent de côté pour mon entreprise, mais je ne suis pas encore, je n'ai pas encore la possibilité de recruter, par exemple, une chargée de marketing. Je peux une assistante, oui, mais pas encore un poste peut-être qui pourrait vraiment, qui donnerait vraiment de la valeur à mon entreprise.
Alors c'est très intéressant parce que je pense que tu n'es pas la seule personne dans ce cas, Anne. Il y a beaucoup de personnes qui sont exactement à ce moment très critique, qui est que tu as trop à faire, mais tu n'as quand même pas encore assez de chiffre d'affaires ou tu as peur d'investir sur quelque chose qui tu vois, potentiellement ne va pas durer non plus à ces niveaux-là, sur quelque chose qui est très impliquant, à savoir un recrutement. Et bah, du coup, la solution à ça, c'est soit le cas numéro un que je te décrivais, c'est-à-dire que tu fais plus toi en étant plus productive. Je suis pas sûre que ça soit la bonne solution dans ce cas-là. Ou deux, que tu passes par des prestataires externes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on dit prestataire externe, c'est pas simplement ton atelier. Ça peut être un prestataire, tu peux prendre des freelances pour t'aider sur du marketing, pour t'aider à faire du web marketing et donc générer plus de chiffre d'affaires. Tu peux également prendre un consultant qui va t'aider à structurer, par exemple, ta chaîne de production. Ça peut être aussi une prestation externe et donc ça te permet, si tu veux, de limiter le risque pour l'instant de faire plus mais sans avoir à recruter quelqu'un. Et quand cette action-là t'aura permis de générer plus de chiffre d'affaires, et ben là tu pourras recruter. Donc je pense que ça, c'est assez clair que c'est ce qu'il faut que tu fasses, réussir à réfléchir, tu vois, à quel prestataire embaucher. Et c'est là en fait que je veux intervenir, c'est que ce que je te dis, c'est assez évident, mais du coup, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on sait sur quoi est-ce qu'il faut recruter? C'est ça la question au final, parce que je pense que tu n'avais pas besoin de cette leçon du gratin pour savoir que finalement, tu as besoin de plus de monde pour t'aider.
Oui, mais je ne savais pas comment le faire. Prestataire externe, par exemple, tu vois, ce n'était même pas dans un coin de ma tête. Pour moi,
bon,
c'était...
Bah alors, écoute, au moins, je sers à quelque chose, ça me fait plaisir. Mais je te le dis, moi, quand j'ai commencé, alors que ce soit avec Gémio, mais avec le gratin, j'ai effectivement, comme tout le monde, pas pu embaucher tout de suite. Et du coup, j'ai commencé par travailler avec des prestataires externes, ce qu'on appelle souvent dans le jargon des freelances, des indépendants, qui travaillaient du coup pas à temps plein pour moi, mais qui m'aidaient, qui m'ont aidé sur le montage, qui m'ont aidé sur la vidéo, qui m'ont aidé sur la création de contenu, qui m'ont aidé sur plein de choses et qui du coup m'ont fait évidemment gagner du temps. Donc ça, déjà, dis-toi que c'est quelque chose que tu peux faire. Je veux juste attirer ton attention sur le fait que c'est pas que c'est pas une solution pérenne. Tu peux travailler avec des gens brillants qui sont des indépendants pendant des années, mais ce qu'il faut que tu fasses impérativement avant ça, c'est qu'il faut que tu réfléchisses à la structure à l'organigramme de ton entreprise. Pourquoi ? Parce que sinon, tu risques de tomber dans un piège qui est très fréquent, qui est que tu vas, ce qu'on appelle, boucher des trous. C'est-à-dire que tu vas juste prendre des prestataires sur des trucs qui te font souffrir, sur de l'opérationnel. Et ça, c'est bien, mais ça n'est pas une solution pérenne. Ce qu'il faut, c'est que tu réfléchisses beaucoup plus en termes de fonction de ton entreprise et que tu dises, bah ok, moi, dans mon entreprise, il y a une partie, c'est la création. C'est la personne qui réfléchit à comment sont les vêtements, à quelle couleur ils sont, qui, tu vois, enfin vraiment, on va imaginer si tu veux l'état d'esprit, des photos et des créations. Ok. T'as une partie qui est marketing, c'est la diffusion. Comment est-ce que je diffuse mon message publicitaire? Comment est-ce que je diffuse tous ces contenus et comment, finalement, je donne envie aux gens d'acheter? Ok. Ensuite, il y a une partie qui est la partie, on va dire, ce qu'on appelle dans le jargon opération, c'est-à-dire la logistique, la fabrication, toute cette partie qui est essentielle, évidemment, qui est de se dire, à un moment donné, j'ai un produit que j'ai en tête et que j'ai imaginé, il faut le produire et puis il faut l'envoyer à des clients dans les temps et en heure.
C'est ça.
Voilà. Et enfin, il y a probablement, et ça, je te dis ça parce que c'est un peu les pôles classiques, hein, il y a un pôle qui est financier administratif, qui est la comptabilité, la finance et tous les trucs qui font chier
tous
les entrepreneurs.
Ça, je fais déjà, j'externalise.
Voilà. Peut-être qu'il y a d'autres pôles. Il y a des entreprises dans lesquelles il y a de la recherche et développement.
Le service client, par exemple.
Il y a le service client. Exactement.
Ça va plutôt dans peut-être marketing.
Ça peut être dans les opérations, ça peut être dans le marketing. Chaque entreprise est structurée différemment en fonction, si tu veux, de ce qui est important. Par exemple, tu vois, dans une entreprise où le service client est clé, eh bien, il peut être effectivement dans le marketing parce que tu as envie d'avoir un discours qui est hyper construit et donc ça peut faire partie, si tu veux, de la même équipe. Dans certaines entreprises où c'est plus fonctionnel, tu vois, le service client, à ce moment-là, il va plutôt être, par exemple, dans le service des opérations, on va plus vouloir juste traiter du volume rapidement. Ça peut être le cas, tu vois, de certains sites internet qui ont juste besoin de traiter les demandes. Il ne peut pas y avoir énormément de personnalisation. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir, tu vois, des conseillers attitrés par client, par exemple. Donc, la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que finalement, ce travail de structuration, de réflexion vraiment sur ton business, c'est-à-dire c'est quoi la forme de mon business, c'est quoi les pôles différents de mon business est crucial et c'est bien que tu commences à le faire en amont dès maintenant, même si, pour l'instant, c'est toi qui est dans quatre cases, parce que ça va te permettre de savoir là où il y a des vrais manques et où il y a des responsables qui vont avoir des rôles et des missions clairement définies. Ça va énormément t'aider ensuite à structurer ton entreprise et à la développer. Et donc là, si on prend ce cas précis, je sais pas exactement, j'ai l'impression qu'Amélie, elle gère pas mal le pôle opération, d'après ce que tu me dis. Peut-être elle gère aussi la gestion de production ou uniquement la partie expédition?
Non, partie expédition service client.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est elle après qui va la logistique, donc la préparation des commandes. Ah oui, le contrôle qualité.
Et le contrôle qualité. Donc, a priori, tout ça ressemble effectivement à la partie opération. Il y aurait peut-être aussi à rajouter théoriquement dans ce pôle-là la partie gestion de la prod, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que tu reçoives les choses dans les temps. À terme, la gestion de la production, donc quelqu'un qui est vraiment responsable des opérations aura aussi pour mission de trouver des nouveaux ateliers, d'aider les ateliers à pouvoir avoir plus de croissance. Enfin, la personne responsable,
le sourcing
aura
également.
Le sourcing,
trouver,
exactement.
Et ça, je manque de temps, alors que je sais
exactement.
Que je pourrais avoir de plus beaux tissus à des prix plus intéressants. Enfin, et ça,
la négociation, bien sûr, avec les ateliers, avec tes fournisseurs. Et donc, tu vois, c'est intéressant finalement ce qu'on est en train de se dire. On va peut-être pas faire le travail entièrement ensemble, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, je pense que tu t'es lancé dans une aventure et que ça marche. C'est déjà une chance incroyable et vraiment un mérite, donc je te félicite.
Ah non, mais j'en suis tous les jours. Je mesure
c'est
ma
génial.
Chance parce que je sais ce que c'est de ne pas...
Que ça marche pas.
Exactement. Je l'ai vécu. Ce que c'est d'attendre la commande qui n'arrive pas, c'est extrêmement difficile. Surtout quand on y met tout son cœur, qu'on essaye de faire les choses. Enfin, j'y mets autant de cœur aujourd'hui que j'en mettais il y a quelques années. Mais là, voilà. Bon, maintenant, je mesure d'autant plus ma chance aujourd'hui que je suis passée également par l'autre case.
Du coup, maintenant que tu sais ça, et d'ailleurs probablement cette marque maintenant réussit parce que la précédente avait échoué et que tu as appris beaucoup de choses et que tu fais les choses mieux malgré tout, là vraiment l'erreur à ne pas commettre, c'est que tu restes, si tu veux, dans une situation où tu es très entrepreneurial, tu touches un peu à tout, mais où tu ne construis pas un business, tu ne structures pas un business. Il faut, si tu veux casser ce plafond de verre, que tu passes par cette étape. C'est fondamental que tu prennes une grande feuille blanche, que tu fasses des cases dans lesquelles tu vas mettre les différentes fonctions de l'entreprise. Dans ces fonctions, tu vas me lister à chaque fois les grandes tâches. Donc, on en a parlé, par exemple, pour la partie opération, la logistique, le sourcing, la négociation. Quitte à ne pas tout faire tout de suite, mais au moins, tu sauras, si tu veux, les cases, qu'est-ce qu'elles devraient être à terme. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu dis, OK, qu'est-ce que je me garde pour moi? Qu'est-ce que je me garde pour moi? Parce que c'est indispensable que ça soit moi qui le fasse. Probablement, je te dis, c'est souvent le cas.
Et parce que je pense que
c'est ta force.
Mes compétences naturelles.
Exactement. Et probablement, d'après ce que tu me dis, toi, tu as l'air d'être assez produit. Donc, j'imagine que ça sera sur la partie création, en tout cas. Est-ce que la partie admin financière, tu veux la garder? Probablement pas. Et d'ailleurs, tu m'as dit que tu as commencé à l'externaliser. Donc, tu l'as fait un peu naturellement, ce travail.
Oui, voilà. Ah, mais c'est ce que j'essaie de faire au maximum avec la partie production, bien évidemment, la partie financière, la partie maintenant préparation de compte, parce que je ne peux pas, en plus, j'ai une vie de famille qui m'occupe un petit peu. Donc, c'est vrai que mes journées, mes week-ends et mes soirées sont très, très chargées parce que il faut que je trouve des solutions à cette situation.
Une fois que tu auras fait cet organigramme, une fois de plus, liste précisément toutes les fonctions, toutes les tâches des fonctions. Réfléchis où là, tu dois être présente, toi, c'est indispensable. Et dis-toi que toutes les autres fonctions, toutes les autres tâches, il faut que tu commences à les externaliser ou à terme à recruter ou pourquoi pas à déléguer davantage à Amélie. Donc par exemple, Amélie, on en a parlé, elle est actuellement clairement dans le pôle opération. Est-ce qu'elle a le potentiel d'être carrément la responsable des opérations, en tout cas dans un premier temps? Je ne sais pas, je ne la connais pas. Peut-être qu'elle peut prendre plus, ce qui va du coup te permettre de toi moins avoir à mettre ton nez dedans. Il ne faudra pas pour autant, si tu veux, que tu contrôles pas ce qu'elle fait de temps en temps. Le contrôle n'exclut pas la confiance, mais pour autant, au moins, elle aura situé une feuille de route qui sera claire. Elle saura que elle, si tu veux, il ne faut pas qu'elle fasse du marketing, du service client et des opérations. Parce que souvent, le problème quand on recrute, c'est que souvent, sur les premiers recrutements, on fait faire un peu tout à la personne en mode dépannage. Mais ça marche seulement un temps. Parce que si tu es la personne, il faut qu'elle ait vraiment une mission claire pour pouvoir être responsabilisée. Sinon, en fait, elle sera toujours dépendante de toi parce qu'en fait, elle va toujours finalement répondre à tes ordres d'une certaine manière. Alors que si jamais tu lui as défini précisément une fiche, ce qu'on appelle une fiche de poste, tout simplement, en fait, elle saura qu'elle est responsable de ce pôle et que c'est à elle de se démerder. Tu contrôleras de temps en temps, mais elle n'aura pas, si tu veux, à te demander ton avis en permanence. Et donc, là aussi, ça va être à gagner du temps.
Enfin, elle gagnera également en autonomie et j'imagine en épanouissement.
Tout à fait.
Parce qu'elle peut gérer un petit peu.
Ça sera plus intéressant pour elle et pour toi.
Oui.
Donc ça, c'est par rapport à Amélie. Et ensuite, par rapport au freelance.
Amélie, le problème, c'est qu'elle rentre en France. Donc bon, Amélie, je la perds. Je la perds dans 2 semaines. Donc je vais essayer de retrouver une nouvelle Amélie. Mais Amélie qui devrait peut-être s'appeler Julie. Donc c'est aussi...
Bienvenue Julie. Bienvenue Julie. Et Julie, du coup, c'est une bonne nouvelle si jamais elle arrive pendant que tu crées cet organigramme. Parce que du coup, tu vas peut-être pouvoir lui créer un organigramme encore plus précis avec des tâches encore mieux définies que ce que tu avais fait probablement pour Amélie.
Oui. Tout à fait. Là, c'était un test.
Donc, mais c'est déjà très bien.
Aucune idée de. Enfin, c'était tout nouveau. J'avais pensé également à une levée de fonds. Mais est-ce que ça peut être quelque chose d'envisageable ou est-ce que c'est trop tôt?
Non, bien sûr. Tu peux toujours faire une levée de fonds. Moi, j'aurais tendance à te dire, avant de faire une levée de fonds, commence justement à déjà structurer l'entreprise. À voir si ça fonctionne avec des prestataires comme des freelances, etc. Parce que au final, la levée de fonds n'est qu'un moyen donc d'accélérer, bien sûr, et de financer pour l'instant, au début à perte, parce que souvent les entreprises qui font des levées de fonds ne sont pas rentables, c'est même d'ailleurs rarement le cas qu'elles soient rentables, une structuration. Mais ça t'aidera considérablement à la fois à faire une meilleure levée de fonds et aussi à ne pas exploser en vol une fois que tu auras fait ta levée de fonds, à déjà commencer à structurer l'entreprise dès à présent. Donc moi, j'aurais tendance à dire... Pourquoi pas lever de fonds si tu estimes plus tard que tu as encore besoin de recruter plus, d'accélérer, peut-être de créer tes propres ateliers, etc. Mais en fait, sincèrement, comme tu en es assez au début, d'après ce que je comprends, puisque tu es seule avec Amélie, déjà, crée ta structure et commence à tester, si tu veux, de la délégation soit en interne avec la future personne qui va remplacer Amélie, donc Julie, soit pourquoi pas, si tu veux, avec des prestataires. Et ces prestataires, ça peut être un prestataire marketing, par exemple, un freelance ou une freelance marketing, ça existe. Il y a plein de sites de freelance qui existent, qui sont très bien, où tu demandes à la personne de t'aider, tu vois, 3 jours par semaine, et tu testes. Et tu vois. Et quand tu vas voir comment ça se passe, bah tu vas te rendre compte que il y a plein de choses que tu avais sous-estimées. À l'inverse, il y a plein de choses, si tu veux, où tu te rends compte que c'est pas forcément nécessaire. Et donc ça va te permettre d'affiner ton organigramme, d'affiner justement toutes les tâches qui sont nécessaires de ton entreprise, et enfin d'arriver à quelque chose auquel tu crois vraiment. Et là, tout d'un coup, il va se passer un truc assez incroyable, c'est que alors que actuellement tu as plus de temps pour faire rien probablement et tu sais même pas où donner de la tête, et bah tu vas te retrouver dans une situation où tu auras du temps. Et si tu as du temps, ça veut dire que tu vas pouvoir commencer à faire du nouveau développement pour ton entreprise. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir te commencer à poser réellement des questions du style, bah, ok, est-ce que j'ouvre une boutique? Est-ce que, tu vois, je change mon organigramme? Enfin,
qu'est-ce que... Alors, ma question, c'est pas, est-ce que j'ouvre une boutique? C'est, quand? Où est-ce que je vais ouvrir une boutique? Voilà.
Voilà. Bah, non, mais c'est très bien. Mais tu vois, il faut, ce que je veux dire, c'est que il faut, si tu veux, que tu crées une structure suffisamment forte pour que tu arrives à te libérer du temps de cerveau. Parce que ton rôle d'entrepreneur, ça va être de plus en plus avec les années et avec le temps et la structuration, un travail de réflexion. Pas que, il faut pas que tu ailles soit dans l'action et sur le terrain de temps en temps. Bien évidemment, je suis la première personne à vouloir faire du terrain. Mais il faut quand même que tu te libères du temps de vision, de réflexion, de structuration, de management aussi pour faire monter tes équipes et que tu sois pas uniquement situé dans l'opérationnel. Sinon, sincèrement, malheureusement, ton entreprise soit est vouée à l'échec, soit est vouée à faire à un moment donné une sorte de burn-out, tu vois.
Ah oui, et là j'en suis proche. Et c'est pas du tout, et c'est justement cette réflexion qui m'anime aussi énormément, parce que autant j'aime énormément le produit, je pense être une créative, autant j'ai aussi besoin de ce travail intellectuel, parce que c'est en plus c'est ma formation de base, puisque j'ai rien à voir avec la mode, j'ai allé jusqu'en doctorat d'histoire de civilisation allemande. Donc,
ah, c'est drôle.
Voilà, donc du coup, c'est ça aussi, justement, c'est ça qui répond aussi à ce besoin dans l'entrepreneuriat. C'est ça que je trouve ultra intéressant, c'est que même si j'ai une marque de vêtements, j'ai aussi tout ce travail intellectuel, je nourris mon intellect grâce justement à tous ces exercices de vision, de valeur, de comment je vois les choses, de comment mettre en place, d'aller chercher des solutions, de recherche, de prendre un peu de hauteur, croiser les sources, enfin bref, tout... Voilà.
Super. Bah écoute Anne, j'espère avoir un peu répondu à ta question, en tout cas t'avoir donné quelques pistes de réflexion. Mais pour moi, c'est assez clair en fait. Du coup, quelle est la prochaine étape? La levée de fonds, je veux pas te mettre en garde parce que tu peux bien évidemment en faire une à un moment donné. Mais d'après ce que je vois, fais attention à pas le faire trop tôt pour plein de raisons. Parce que si tu la fais trop tôt, déjà t'auras une valorisation qui sera pas bonne et du coup, t'auras des financiers qui vont prendre de grosses parts de ton entreprise et c'est pas forcément ce que je te souhaite. Donc pour plein de raisons, si tu veux, la première étape c'est d'abord la structuration. Et ensuite, tu pourras commencer à réfléchir à des financements externes. Mais la bonne nouvelle, c'est que si jamais tu es autofinancé et que tu arrives à générer de la croissance saine via de l'autofinancement, via ton chiffre d'affaires, quoi, tout simplement, et une rentabilité, bah, tu vas pouvoir aussi beaucoup plus facilement prendre de la dette pour ouvrir des boutiques, etc. Et donc, garder le capital de ton entreprise. Parce que faut quand même pas oublier que la levée de fonds, c'est pas tout rose, hein. La levée de fonds, ça veut dire que t'as, une fois de plus, on en a fait chez les murs, donc je dis pas que c'est pas bien, mais il faut réaliser, et ça, je veux vraiment alerter les gens, que tu donnes une part importante de ton entreprise à des investisseurs, à des financiers, à des personnes qui parfois sont très très bonnes, enfin voilà, composition et de très grande qualité, mais l'entreprise ne t'appartient plus à 100%. Là, cette marque, elle porte ton nom, donc juste, il faut que tu en aies bien conscience.
Oui, et qui n'ont pas, et qui sont peut-être très bien intentionnés, enfin vraisemblablement, mais qui n'ont peut-être pas forcément la même vision que moi.
Tout à fait.
Donc, d'accord. Écoute, merci beaucoup parce que cela vraiment m'a fait beaucoup de bien et j'ai hâte de m'y mettre. J'ai déjà pris des notes, donc je vais mettre au travail et essayer de lister un petit peu toutes les organiser toutes les tâches liées à mon activité. Donc, merci.
Génial.
Beaucoup, Pauline.
Bah écoute, merci à toi Anne, c'était un grand plaisir. Je te souhaite tout le succès possible et imaginable avec cette belle entreprise.
Écoute,
et puis tiens-moi au courant du coup de la suite.
Merci beaucoup.
Allez, je te dis à bientôt.
Salut Pauline.
Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes. Et puis si iTunes, c'est pas votre truc, si Apple, vous n'avez pas envie d'en entendre parler, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Donc à vous de jouer et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin.